Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, commençons aujourd'hui ce temps de préparation immédiate à la fête, au temps de carême avec la Septuagésime. Et c'est aussi aujourd'hui la fête d'un très très grand saint, je vais vous en dire deux mots, Saint Cyril d'Alexandrie. C'est le saint qui est intervenu pour faire accepter par l'Église le dogme fondamental de la maternité divine. Au début, on voit très bien l'Église catholique avait presque peur d'affirmer que la Très Sainte Vierge Marie était mère de Dieu. Elle savait qu'elle était mère de Dieu. L'Église a toujours enseigné ça, mais elle a un peu peur de l'affirmer parce que elle craignait en quelque sorte qu'on idolase, on idolâtre littéralement la Très Sainte Vierge Marie. Et c'est au concile d'Éphèse, 431-432, que Saint Cyril d'Alexandrie, justement, est intervenu auprès des pères de l'Église, des pères conciliaires, pour faire accepter comme dogme de foi la divine maternité de la Très Sainte Vierge Marie. C'est le titre de gloire le plus essentiel de la Très Sainte Vierge Marie. Tous ces autres titres, comme l'Immaculée Conception, comme l'Assomption à la Très Sainte Vierge Marie, sont des conséquences du fait qu'elle est mère de Dieu. Elle n'est pas simplement mère du Christ, elle est mère de Dieu. Elle est mère d'une personne qui est Dieu et homme à la fois. Donc elle est véritablement mère de Dieu sans être Dieu elle-même. Et c'est pour cela que la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute la grâce. C'est parce qu'elle est mère de Dieu que la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice du jour humain, n'en déplaise à Monsieur Bergoglio à Rome qui enseigne le contraire. Et donc il faut justement profiter de cette grande fête pour augmenter en nous cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie en tant que mère de Dieu. Elle est mère de Dieu, mais elle est aussi mère des hommes. Et donc la Très Sainte Vierge Marie, dans sa maternité justement, va obtenir de son divin Fils, puisqu'elle est mère de Dieu, elle a un pouvoir extraordinaire sur Dieu. On dit que la Très Sainte Vierge Marie est l'unique personne capable de changer la volonté divine. Donc en tant que mère de Dieu, elle a pouvoir sur son Fils pour obtenir pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors revenons à ces deux textes magnifiques de l'Église catholique pour ce temps de la Septuagésime. Dans l'oraison d'aujourd'hui, il nous est dit que nous sommes affligés justement à cause de nos péchés. Et miséricordieusement, Dieu nous a libérés de ce péché. Donc deux choses essentielles, c'est tout le message du temps de la Septuagésime. D'abord le péché, les conséquences du péché. Pourquoi ce temps de pénitence? Pourquoi le carême qui arrive? À cause du péché. À cause des afflictions dues au péché. Qui dit affliction dit souffrance. C'est pas le bon Dieu qui a mis le péché dans le monde, c'est l'homme. C'est pas le bon Dieu qui a amené la mort et toutes ses conséquences. C'est pas Dieu qui a amené l'enfer, c'est l'homme qui par lui-même, en désobéissant, c'est le premier péché d'Adam et Ève, en désobéissant par son orgueil, quand il a voulu se mettre à la place de Dieu, littéralement, parce que c'est le péché d'Adam, c'est le péché de Lucifer, eh bien, évidemment, ils ont amené des catastrophes dans le monde, et donc toutes les afflictions dues au péché. Et à cause de ces afflictions, d'une désobéissance au bien infini qu'est Dieu, eh bien, évidemment, Adam et Ève ont tout perdu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, justement, par son incarnation, par sa rédemption, en acceptant de mourir pour les pauvres gens que nous sommes, en acceptant d'écraser, en quelque sorte, d'écrabouiller son humanité sur la croix, a libéré l'homme du péché. Et donc, il nous faut vivre dans un état d'action de grâce, une action de grâce constamment. À la fois se rendre compte des conséquences du péché, on finit par... C'est ça le drame du monde moderne, c'est que le péché s'est tellement multiplié que beaucoup de gens finissent presque par trouver ça normal. C'est-à-dire le démon a recouvert le péché d'une belle peinture dorée pour faire croire que le péché finalement était acceptable. Le péché n'est pas acceptable. Et on le comprend justement en mesurant les conséquences du péché. Les conséquences du péché, ce n'est pas simplement Adam et Ève qui sont exclus du paradis terrestre. Les conséquences du péché, c'est l'obligation pour Dieu le Père d'envoyer son propre Fils mourir sur la croix pour rattraper justement ce péché. Alors l'Église catholique se compare à la vigne, c'est l'évangile du jour. Cette vigne, c'est d'abord l'Église. Et Dieu envoie les ouvriers à sa vigne, c'est-à-dire Dieu va chercher justement des ouvriers qui vont accepter de venir travailler à cette vigne et pour que cette vigne soit entretenue et puisse donner du bon raisin qui va pouvoir être écrasé, être vinifié pour former le vin qui est le symbole du Saint-Esprit. Et cette vigne n'est pas simplement le symbole de l'Église. Les pères de l'Église vous expliquent que cette vigne, c'est aussi notre vigne personnelle. L'Église catholique est une vigne gigantesque, mais chaque âme est aussi une vigne dont nous ne sommes pas propriétaires, attention. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes les locataires littéralement de cette vigne. Nous sommes les gérants de cette vigne. Et comme nous ne sommes que les gérants, le propriétaire de la vigne a le droit, au moment de la production du vin, de venir récupérer ce qui lui appartient, pour vérifier que le vin a proprement été vinifié, est un vin doux et suave, qui va vraiment réjouir le cœur de Dieu. Et donc, puisque notre âme est comme une vigne, il va falloir s'occuper de cette vigne. On n'a pas de vigne n'importe où, il faut commencer pour préparer le terrain. Il faut préparer le terrain, il faut aplanir le terrain, il faut enlever les ronces, enlever les mauvaises herbes, enlever les pierres, puis planter les petits sarments. Et une fois que les sarments commencent à pousser, il faut les tailler. Si on ne taille pas une vigne, elle n'a rien de doux, elle va donner des petits grappillons incapables de donner du vin. Donc, il va falloir tailler cette vigne en fonction du vin qu'on veut récupérer. Il faut après récolter les grappes, puis les presser et les vinifier correctement pour en faire un vin acceptable par le bon Dieu. Et donc le bon Dieu, étant propriétaire de cette vigne, va un jour venir au moment du temps de production du vin en nous demandant des comptes sur la quantité, je dirais, de vin produite par notre vigne. Et en fonction de la taille de notre vigne, de la taille du terrain qui est représenté par notre âme, eh bien le bon Dieu sait combien il doit attendre de cette vigne. Si la vigne est abondante, il faut donner un certain nombre de litrages, littéralement de vin, une expression un peu moderne, mais qui explique bien ce que ça veut dire. Le bon Dieu a un droit strict d'exiger un vin de qualité proportionnel à la taille de notre vigne. Dans l'Évangile, il y a deux choses aussi importantes, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bon, c'est la bonne nouvelle. Le bon Dieu nous dit que les derniers seront les premiers. On voit très bien dans le texte de l'Évangile, donc ce maître qui va chercher les ouvriers et qui va payer le même salaire à ceux qui ont porté le poids du jour pendant toute la journée et à ceux qui, au contraire, sont arrivés qu'à l'11e heure. 11e heure, c'est 5 heures de l'après-midi. Donc juste avant la fin de la journée de travail. Eh bien, ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que quel que soit le temps de notre conversion, si la conversion est véritable, nous aurons le même résultat, le même salaire. Et quel est ce salaire? Ben, ce salaire, c'est le paradis, c'est ça le salaire. Le denier qui est donné représente justement, en quelque sorte, la clé qui ouvre la porte du paradis. Donc il ne faut jamais nous décourager, bien comprendre que le bon Dieu, même si nous sommes arrivés, je dirais, à remplir notre devoir d'État très tardivement, c'est le cas par exemple des conversions, souvent nous sommes des convertis, eh bien, quel que soit le temps de notre conversion, si cette conversion est véritable, si cette conversion est profonde, le bon Dieu donnera aux convertis la même récompense qu'il donne à ceux qui ont toujours été catholiques. Cela doit être pour nous un réconfort extraordinaire, parce que nous savons que même si nous sommes arrivés au dernier moment, eh bien, on aura la même récompense. L'exemple classique, typique, c'est Saint Dismas. Alors lui, il n'est pas arrivé à l'11e heure, il est arrivé à 11h, dernière heure, plus 59 minutes, juste avant de mourir. Et juste avant la mort du Christ, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Il fait un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Et on voit très bien, le bon Dieu ne va pas lui dire, bon, ben, 5 ou 6 siècles au purgatoire, on verra après. Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Et Dieu va donner à ce bandit converti au dernier moment, à la fumée des cierges, la même récompense qu'il va donner au plus grand saint qui attendait dans les limbes des patriarches. Pourquoi? Parce que justement, les ouvriers de la dernière heure seront payés de la même façon que les ouvriers de la première heure. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Il faut voir les deux choses. La bonne nouvelle, c'est la miséricorde. Et aussi le rappel dans la justice. phrase très 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 dure de notre Seigneur, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, il précise bien, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, beaucoup sont appelés, peu sont élus? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser de venir travailler à la vigne. Le maître envoie ses ouvriers, envoie ses intendants chercher les gens qui traînent sur la place publique, oisifs, parce qu'ils n'ont pas de travail. Il leur propose de venir travailler à la vigne, mais il y en a qui ne veulent pas venir travailler. Parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer, parce qu'ils veulent, ils veulent jouir de leur oisiveté sur la place publique sans travailler. Eh bien, le bon Dieu nous rappelle qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'il ne faut pas simplement travailler, mais il faut travailler et remplir son devoir d'État de chaque jour. Et c'est tout ce que nous devons faire, nous justement, dans notre vigne. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la vigne et de contempler la vigne qui pousse toute seule. Il faut s'en occuper de cette vigne. Et tous ces travaux de l'ouvrier dans la vigne représentent notre devoir d'État en tant que catholique, à savoir surtout le devoir d'État de la prière, le devoir d'État de la pratique de la vertu de pénitence, l'usage des sacrements, l'étude, les quatre choses essentielles qu'un catholique doit impérativement faire pour pouvoir justement être fidèle et recevoir le produit, la conséquence de son travail. Donc première chose, c'est prier. On a besoin de prier. Celui qui ne prie pas se damne, dit saint Alphonse de Ligny. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Deuxièmement, faire pénitence. La pénitence, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose d'obligatoire. Si vous ne faites pas pénitence, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous périrez tous. Troisième chose, c'est utiliser évidemment les sacrements que le bon Dieu nous donne, surtout pour nous, le sacrement de la pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc bien penser à, pendant ce temps de pénitence, à se confesser, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, préparer éventuellement une bonne confession générale avant la fête de Pâques, pendant le temps de carême, justement, pour pouvoir profiter, ouvrir la porte de notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir nettoyer notre âme tel qu'il le souhaite. Et enfin, quatrième chose, quatrième devoir d'État, l'étude, pour nourrir notre intelligence. Nourrir notre intelligence, dans l'objet formel et le vrai, donc il faut nourrir cette intelligence pour que cette intelligence ait toujours le courage de chercher le vrai et pas se laisser contaminer pour remplacer le vrai par toutes les horreurs du monde moderne. Alors, si je remplis mon devoir d'État, si je prie, si je fais pénitence, si j'utilise le sacrement, si j'étudie, alors à ce moment-là, je pourrais utiliser mon intelligence sous le regard du bon Dieu, avec les dons du Saint-Esprit, justement, pour remplir mon devoir d'État dans ma vigne, faire un vin qui est un vin correct, qui sera accepté par le bon Dieu, et le bon Dieu, à ce moment-là, me donnera le denier, c'est-à-dire la clé qui ouvre la porte du paradis. Et il est intéressant de voir que dans l'épître du jour, c'est Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, 1 Corinthiens, chapitre 9, on a exactement le même message. Dans l'Évangile, il est dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et dans l'Épître aux Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens finit par un rappel historique très important. Il rappelle qu'avec la plupart des Juifs de l'Ancien Testament, la plupart des Juifs de l'Ancien Testament, dit Saint Paul, ne furent pas agréables à Dieu. À quoi faire, disons, notre Seigneur? C'est un rappel, en fait, de l'Exode, avec le peuple juif. Le peuple des Hébreux était maintenu en esclavage en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse justement pour guider le peuple hébreu, le faire sortir d'Égypte, la fameuse sortie, la traversée de la mer Rouge à pied sec, et ensuite pour les conduire en terre promise, la terre de Palestine. Et à cause de la révolte constante des Juifs, ben ils vont traîner dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu, pour marquer justement cette révolte, n'a pas permis qu'on pense qu'il y a au moins 600 000 Juifs qui ont quitté l'Égypte, et au moins 600 000, il y en a deux qui ont pénétré en terre promise. Deux hommes, Josué et Caleb, c'est tout. Même Moïse n'a pas mis le pied en terre promise. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'est pas rentré, il est mort avant. Eh bien, l'Église catholique a toujours interprété cette réduction extraordinaire, terrible même, de 600 000, il n'y en a que deux simplement qui vont de ceux qui avaient quitté l'Égypte, qui vont rentrer en terre d'Égypte, avec tous ceux qui étaient nés pendant ce temps-là, pendant le temps de l'Exode, bien pour bien nous montrer justement que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors cela ne doit pas nous décourager, bien sûr que non. Hein? n'a pas à nous décourager, mais en même temps nous montrer qu'on a un combat à mener. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans l'épître d'aujourd'hui. Je dois châtier mon corps et le maintenir en servitude. Ça veut dire quoi? Saint François d'Assise, il appelait son corps le frère âne. Pourquoi un frère âne? Un âne, on tape dessus pour faire marcher. Montez sur un âne, vous dites à l'âne, marche. L'âne, il s'en fiche, il ne marche pas. Vous prenez une baguette et tapez sur le dernier de l'âne pour faire marcher l'âne. C'est pareil avec notre corps. On a besoin de dominer notre corps, et le corps ne va pas être dominé comme ça par l'âme, parce que justement, il y a la corruption du péché originel qui est là. Nos facultés, les puissances de nos âmes sont corrompues, ce qu'on appelle les blessures du péché originel, que ce soit l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, tout ça n'est pas détruit, mais blessé par le péché originel. C'est l'ignorance, c'est la malice, c'est la faiblesse, c'est la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil. Et donc il y a un combat, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le grand message de la Septuagésime, c'est ça, la vie est un combat. Et c'est précisément, je pense, ça qui explique ce qui s'est passé autour des années 60, début des années 60, après la mort du pape Pie XII en 58, c'est ce refus de se battre. On ne veut plus se battre. C'est une espèce de pacifisme spirituel qui est rentré dans l'Église, malheureusement. On appelle ça un irénisme, qui consiste à ne plus vouloir se battre. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel. Eh bien, le catholique est un soldat. Le catholique est quelqu'un qui se bat d'abord contre soi-même. On se bat contre sa volonté propre, on se bat contre le monde, on se bat contre le démon, en sachant que même si le combat est long, du moment que nous sommes fidèles, si nous sommes trouvés fidèles, le bon Dieu, qui aime la fidélité, nous dira le jour de notre mort, venez, bon, et ses fidèles serviteurs, possédez le royaume qui a été préparé pour les anges et vous-même. Donc ne pas se décourager, je pense que le grand message de l'évangile c'est ça, la vie est un combat, donc on a besoin de se battre avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ pour maintenir ce combat, et donc il faut prier, il faut faire pénitence, il faut utiliser les sacrements, il faut étudier pour pouvoir avoir justement ce denier qui nous ouvre les portes du ciel. Voilà le grand message de ce temps de la Septuagésime. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie, donc, puisqu'elle est Mère de Dieu. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, demandons à ce grand saint qui est Saint Cyril d'Alexandrie, qui est docteur de l'Église, donc de mettre en nous cette dévotion envers la Mère de Dieu. Envers la Mère de Dieu. Il nous faut aimer la Très Sainte Vierge Marie, justement parce qu'elle était choisie pour être la Mère de Dieu. Le bon Dieu aurait pu nous apparaître dans toute la gloire de sa divinité. Nous aurions été complètement paniqués. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dévoilé une toute petite portion de sa divinité au sommet du Tabor. Le jour de la Transfiguration, à Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, il était complètement paniqué. Il tombe la face contre terre. Il n'ose même pas regarder la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme si on voulait regarder le soleil en face, on est complètement aveuglé par l'excès de luminosité du soleil. Là, c'est pareil. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait que la divinité, en quelque sorte, nous fait peur, se cache sous son humanité. Il devient un bébé. Personne n'est effrayé d'un bébé, justement parce qu'il y a une douceur, une gentillesse dans un bébé qui fait que tout le monde tombe sous le charme de l'enfant. Mais c'est la même chose pour notre Seigneur. Il cache sa divinité sous l'humanité. Et pour nous montrer à quel point il nous aime, notre Seigneur Jésus-Christ accepte justement d'être écrasé sur la croix. Alors, prions donc celle qui a été l'intermédiaire de ce mystère extraordinaire de l'incarnation, notre Sainte Vierge Marie. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu dire, moi je ne veux pas devenir la Mère de Dieu, parce que devenir Mère de Dieu, ça veut dire avoir plein de problèmes. Dieu sait si elle en a eu. Elle a dû accompagner son fils portant sa croix jusqu'au sommet du calvaire. Hein. Elle le savait très bien. Siméon lui avait dit, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Elle a accepté. Eh bien, la moindre des choses maintenant, c'est d'avoir pour elle et pour son divin fils d'amour très tendre. Gardez cette dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie pour que la Très Sainte Vierge Marie vous conduise à la porte du paradis, que nous puissions un jour tous être réunis là-haut pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.